Il est 18h à Niamey, tout de suite le journal en français du studio Kalangou au micro Michel Deji. Les titres de cette édition, célébration ce mardi 3 août 2021 du 61e anniversaire de l'indépendance du Niger, couplé à la fête nationale de l'arbre instituée depuis 1975. Détails dans ce journal. Environ 70 millions de francs CFA, c'est le coût de la perte enregistrée l'année dernière par la coopérative des riziculteurs de Karma. Ils craignent cette année encore des inondations et appellent le gouvernement à leur venir en aide. La persistance de l'insécurité le long de la frontière nigéro-nigériane impacte négativement sur les activités économiques des femmes de la commune rurale de Gabi au Niger. Le témoignage de la présidente de ces femmes est à suivre dans la partie magazine de ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Cela dit, le Niger célèbre ce mardi 3 août 2021 le 61e anniversaire de son indépendance. À cette occasion, le président de la République s'est adressé à la nation hier soir. Mohamed Bazoum a appelé tous les Nigériens à se faire vacciner contre la COVID-19 pour éviter cette maladie. Je vous propose de suivre un extrait de son message.
Cette année encore, l'anniversaire de notre accession à l'indépendance se déroule dans un contexte de préoccupations sanitaires dues à la pandémie de la COVID-19, avec notamment l'apparition du très dangereux variant Delta. Je voudrais vous inviter à vous faire vacciner, vous tous, et à respecter toutes les consignes sanitaires pour éviter cette maladie. La commémoration de l'indépendance s'accompagne traditionnellement des actions de plantation d'arbres et de reboisement. Cette année, l'opération a pour thème « Valorisons le Moringa pour améliorer l'économie locale ». La production, la transformation, la consommation et la commercialisation des produits Moringa par les communautés locales et les organisations de producteurs est quelque chose que nous encourageons du fait de son impact dans l'amélioration de l'offre alimentaire dans notre pays.
Propos recueillis par nos confrères de la télévision nationale Télé-Sahel. En lien avec cette célébration de la fête de l'indépendance du Niger, l'écrivain nigérien Adamu Idé revient sur les conditions d'accession à l'indépendance des anciennes colonies françaises. Pour lui, les accords post-coloniaux étaient biaisés par la France qui a toujours caressé le rêve de maintenir ses anciennes colonies sous son joug. Il est interrogé par Mokhtar Hamadou.
C'est pourquoi les premiers dirigeants ont lutté. C'est effectivement avoir une espèce d'autonomie politique. Mais la construction du pays doit se faire avec les moyens qu'ils ont. C'est ce qui s'est passé en 1960. Les textes disent clairement que les premiers objectifs recherchés par ceux qui ont la gestion du pays en main à l'époque, c'était d'abord une indépendance politique. Ensuite, l'indépendance économique. Malheureusement, dans les négociations pré-indépendance, il s'est passé beaucoup de choses qui apparaissent maintenant au grand jour avec les moyens d'information. À savoir que la France, pour ne pas la nommer, a concocté des accords machiavéliques pour maintenir toujours sous sa dépendance les 14 pays francophones qui ont accédé à l'indépendance dans les années 60. De Gaulle disait à son corps défendant qu'il aimait les grands départs qui font revenir. C'est-à-dire que vous partez, oui, mais je vous tiens là où c'est essentiel, c'est-à-dire dans tous les domaines stratégiques sur lesquels vous pouvez espérer vous développer et vous émanciper réellement.
Cette fête nationale du 3 août, également appelée Fête de l'Arbre, est une occasion pour plusieurs citoyens, associations et ONG œuvrant dans le domaine de l'environnement de planter des arbres. C'est le cas de l'ONG Agir pour un environnement et un développement durable qui a planté des arbres ce matin à l'école Bane Koubaïde de Niamey. Le coordonnateur de cette ONG, Hamani Dari, appelle les responsables de cette école à un entretien de ces arbres. On l'écoute.
Nous sommes en train d'envisager de mettre à peu près 200 plantes. Nous avons amené des moringa et ensuite, à part moringa, on l'appelle l'arbre en germain et kobe. Ce sont des arbres qui n'ont pas des épines parce que nous sommes ici dans une école primaire, donc il faut éviter d'amener des arbres épineux. Donc c'est pour cela que nous avons songé d'amener des arbres qui vont faire des grands ombres. Ensuite, le moringa aussi, c'est pour donner au personnel enseignantes et femmes du quartier qui vont venir. Elles aussi, elles vont planter dans leur foyer. Donc, je vais lancer un appel aux responsables de cette école, que cette école sera inchallah notre cible d'intervention. Nous voudrons qu'eux aussi, ils doivent mettre toute leur énergie pour les entretenir convenablement pour que demain, que les arbres profitent à tout le monde.
La riziculture constitue l'une des principales activités des populations de la commune rurale de Karma, le long du fleuve Niger, dans la région de Tillabéri. Les inondations enregistrées l'année dernière au Niger ont impacté la production rizicole. La perte enregistrée par la coopérative rizicole est estimée à 70 millions de francs CFA, selon le secrétaire général de la coopérative Idrissa Hassan. Il est au micro de Mokhtar Hamadou.
L'année dernière, l'eau a englouti toutes les rizières. Nous avions passé 12 jours sur le périmètre rizicole pour tenter de colmater des brèches sur la digue. Malgré tous nos efforts, l'eau a tout détruit et c'était au moment où le riz était au stade de maturité. Nous avions tout perdu. Nous avions aussi alerté le gouvernement. Et actuellement, les engins lourds s'activent pour entretenir la digue. Nous espérons que si toute la digue est bien arrangée, Inch'Allah, nos rizières seront à l'abri des menaces. L'année dernière, nous avions utilisé 80 tonnes d'engrais. La perte sèche enregistrée par la coopérative rizicole de Karma est estimée à 70 millions de francs CFA. Nous sollicitons encore du gouvernement un peu plus d'efforts en supportant au moins les pertes liées au coût de l'engrais.
La saison des pluies s'est installée au Niger cette année. Avec ces pluies, on assiste à des inondations ou l'arrivée des courries qui provoquent souvent des dégâts dans les jardins. C'est le cas dans le département de Tchirozérine, région d'Agadez. Le chef du village de Kampala appelle la population à la prudence. Ekade Mohamed est au micro de Aminaïde.
Maintenant, nous sommes en saison pluvieuse. Les courries sont là. Va falloir que les gens fassent très attention. Partout où l'on sait qu'il y a eu des pluies, il faut se méfier. Tout un chacun connaît les zones inondables. Si l'année passée, l'on est victime d'inondations, et ensuite l'année qui suit, donc par conséquent, l'on doit prendre ses dispositions pour se sécuriser. Il faut quitter ces endroits et aller s'installer dans les zones non inondables. Il y a des hauteurs où l'eau n'arrive pas. Par exemple, celui qui s'installe à Banizumbu jusqu'à Kan, CEG, eh bien, c'est des zones d'écoulement d'eau. Je veux même jusqu'à vous dire que tout Tchirozérine, auparavant, était un passage d'écoulement des eaux. C'est maintenant, avec les quelques actions d'assainissement, que les choses se sont réduites. Mais ce qui est certain, 50 ans après, l'eau peut revenir prendre son lit. Cela est évident, c'est Dieu qui le dit.
L'amélioration de la vie de la femme au centre d'une rencontre entre les écoles des maris et les clubs des futurs maris dans le département de Meyaye, région de Maradi. Hamza Ouma, le coordinateur du projet Bunkasar Diamata, explique au micro de Issoufou Chaibou.
Nous avons organisé cette rencontre dans le but de permettre aux différentes structures relais que nous avons mises en place dans le cadre de ce projet-là, à savoir les écoles des maris et les clubs des futurs maris. Nous avons compris que pour aller dans le sens de l'amélioration des conditions des femmes, il faut impliquer aussi les hommes. Chacun doit contribuer à porter sa pierre à l'édifice. Cet échange, c'est de partager ce que nous faisons, nous, dans le cadre de mise en œuvre de ce projet communément appelé projet Bunkasar Diamata, que les différents acteurs puissent se retrouver, échanger, partager, voir par rapport au démarrage quelles sont les leçons apprises, les différents points à améliorer et les recommandations.
Le 29 juillet 2021, à l'occasion du 30e anniversaire de la Conférence nationale du Niger, la Commission des affaires féminines des étudiants de l'Université de Niamey a organisé une conférence sur le leadership politique féminin. Il a été surtout question de la sous-représentation des femmes dans les instances de décision. Faisal Boubacar a assisté, voici son compte-rendu.
Le leadership politique féminin, objet d'une conférence organisée à l'Université de Niamey, le 29 juillet par la structure estudiantine. Pourquoi cette conférence est à l'université? Réponse de Maria Maman Manchit, déléguée des affaires féminines à l'université de Niamey.
Nous avons organisé cette conférence en collaboration avec une structure qui s'appelle GENCET, Gender Center for Empowering Development, qui est une organisation non gouvernementale qui œuvre pour les femmes et les jeunes pour un développement durable dans nos communautés. Nous avons choisi le thème leadership politique féminin en ère de démocratie, afin que que nous puissions encourager les jeunes femmes que nous sommes à embrasser la politique surtout et aussi à prendre l'exemple sur les femmes politiciennes.
Les participants se sont réjouis de cette conférence à la suite de laquelle les interventions des conférenciers furent pertinentes et intéressantes.
C'est une grande réussite. Vu la pertinence des questions et les interventions reçues, c'était vraiment intéressant. Ce que je retiens, c'est qu'il reste beaucoup à faire en termes de solidarité féminine. Apparemment, c'est ce qui nous manque.
Les organisatrices appellent les femmes à s'intéresser davantage aux activités politiques et pensent que ces genres de conférences sont initiées pour cela.
Les femmes sont réticentes. On a vraiment du talent, du potentiel, mais on a peur. Donc peut-être grâce à ce genre d'activité, peut-être qu'on va booster leur confiance et vont accepter de s'affirmer.
Dans le département de Kintabaraden, région de Tawa, l'élevage est confronté à la prolifération des produits prohibés sur les marchés, a déclaré Moussa Issa Tazar, directeur départemental de l'élevage. Selon lui, les éleveurs transhumants utilisent ces produits non homologués pour vacciner leur bétail. Moussa Issa Tazar explique au micro d'Alamine Ouachar.
La plupart des éleveurs, en tout cas transhumants qui viennent chez nous ici, là, c'est l'automédication qu'ils font. C'est des gens qui viennent généralement avec les produits où ils arrivent à s'approvisionner au niveau des pays voisins là. Ils n'ont pas une très grande notion, en tout cas, sur l'utilisation de ces produits. Ce qui fait que très souvent, nous sommes confrontés à certaines difficultés par rapport à leur présence. Parce qu'ils utilisent de façon abusive les antibiotiques. Maintenant, avec leur arrivée là, très souvent, on rencontre surtout de la fièvre aphteuse. Généralement, c'est les animaux qui viennent du sud qui nous amènent ça. Et un peu aussi la clavelée. Bon, nous sommes en tout cas avec les autres partenaires. Nous sommes en train de vouloir les sensibiliser. Dès qu'ils constatent une maladie au niveau des foyers, de faire une déclaration au niveau des services compétents.
Parti Magazine à présent, les femmes de la commune rurale de Gabi, surtout celles des villages frontaliers avec le Nigeria, mènent une vie difficile ces derniers temps avec la persistance de l'insécurité le long de la frontière. Elles ont délaissé beaucoup de leurs activités comme le commerce ou l'agriculture, de peur d'être tuées ou enlevées par les bandits armés, selon Maria Issa, présidente des femmes de Gabi. Elle est au micro de Mohamed Maman.
La vie des femmes ici à Gabi, et même celle des hommes et des enfants, est dans une situation de crainte permanente. Nous avons tous les problèmes quand la nuit tombe. Nous ne dormons pas parce que nous sommes aux aguets du moindre crépitement des armes, car ces bruits sont fréquents dans les villages environnants. En plus, avant les femmes et les enfants sortent du village pour cueillir des herbes que nous vendons ou préparons pour la consommation de la famille. Mais cette activité est aujourd'hui abandonnée. On a tous peur pour nos vies. Les femmes ne vont plus à Jibia ou à Gourbi, au Nigeria, pour les activités économiques. Parce qu'on a peur d'aller là-bas et qu'on nous enlève surtout que nous n'avons pas les moyens de payer la rançon. Les seules femmes qui vont au Nigeria prennent des risques considérables. Aujourd'hui, la situation a atteint le point où même si nos filles qui vivent au Nigeria accouchent, personne ne part pour la cérémonie.
Nous pouvons dire que cette situation d'insécurité vous a plus mis dans la précarité?
Avant, quand la situation était encore stable, on peut avoir des femmes qui peuvent disposer de plus de 60 bottes de mil dans son grenier. Mais aujourd'hui, avec l'insécurité résiduelle, il y a des familles qui n'ont même pas une tige de mil. Il faut aller chaque jour au marché pour se ravitailler. Mais la prise en charge de cette question sécuritaire par le président Bazoum nous agrée énormément. Pour parler de l'agriculture, nous avons appris que les populations de l'Ouest ont commencé à aller au champ parce que la patrouille militaire est présente. Cependant, personne ne prend du temps au champ. Ils quittent tôt pour ne pas croiser le chemin de ces bandits.
Qu'est-ce que les femmes cultivent ici dans votre contrée?
Les femmes cultivent le mil, le maïs, le sorgho. Quand une femme produit du mil, elle le stocke dans le grenier et le fait sortir pour l'alimentation familiale quand la production du mari est épuisée. Si elle a des cérémonies sociales comme mariage, baptême et autres, elle vend une partie pour satisfaire ses besoins.
Après l'agriculture, vous faites aussi le petit embouche, mais nous savons que les bandits armés ont tout pris. Est-ce que vous avez commencé à reconstituer ce cheptel?
Ce sont vraiment les villages éloignés qui n'ont plus de bétail. Il n'y a plus de petits ruminants.
Merci d'avoir suivi ce journal en français de Studio Kalangou qui est à présent terminé. Au revoir.